La première, podcast.
Il est 13h.
Le journal.
Avec Arnaud Reussen.
Bonjour à tous. C'est une conséquence des récentes inondations qui ont frappé notre pays. Des berges de rivières sont endommagées et s'effondrent même par endroits. Du coup, en région liégeoise, par exemple, des riverains se sont vus interdire l'accès à certaines pièces de leur habitation. Explication et décryptage dans un instant. La grogne devient de plus en plus vive au sein du personnel de fait d'asile. Le nombre de demandeurs d'asile augmente sans cesse chez nous et le personnel manque cruellement de moyens pour traiter ces demandes. Toujours beaucoup de questions après le harcèlement physique et moral dont a été victime un travailleur de l'entreprise MacTac à Soigny. De quoi poser cette question? Comment de telles situations peuvent-elles se produire au sein d'une entreprise malgré les lois de protection? Réponse dans ce journal. La Cour pénale internationale ouvre aujourd'hui un procès important, celui de Jean-Pierre Bemba. Nous tenterons de voir ce que pèse encore aujourd'hui le leader congolais dans son pays. Et puis dans l'envers des médias vers 13h20 sur la première, on reviendra sur l'émission Panorama de la VRT hier soir, émission qui a fait grand bruit, évoquant le plan B d'une scission de notre pays, décryptage avec le politologue Dave Sinardet vers 13h20, donc sur la première. C'est donc une conséquence des récentes crues, je vous le disais. En région liégeoise, un mur de berge de la Vesdre s'est écroulé dans la nuit de samedi à dimanche à Chêné. Le long de la rivière, les jardins et annexes de 8 habitations ont été déclarés inhabitables par la ville. Alors contrairement à ce que l'on vous disait ce matin, les riverains ont pu continuer à rester dans leur maison. Mais aujourd'hui, les services des voies non navigables de la région wallonne procèdent sur place à une expertise du mur de la berge. En attendant, certains riverains ne peuvent pas avoir accès à toutes les pièces de leur maison, comme ont pu le constater sur place ce matin Vincent Brichet et Éric Dagonier.
La maison de Teresa Pietronovo est située à quelques dizaines de mètres du mur de berge qui s'est écroulé. La police a placé des banderoles dans le fond de sa cour pour interdire l'accès en bord de Vesdre.
J'ai une petite pièce, moi, derrière, qui donne sur l'eau.
Et la police vous interdit d'y aller?
Oui, elle a dit peut-être... Cette zone-là, c'est en danger.
Marc Minet, chef de cabinet du bourgmestre de Liège.
Nous sommes intervenus pour vérifier maison par maison s'il n'y avait pas un risque. Et par principe de précaution, nous avons demandé et signifié aux personnes de ne pas utiliser une série d'annexes.
C'est le cas pour Myriam Schlapp, elle habite au bord de la rivière.
J'ai des fissures dans la cour, dans la salle de bain, au sol, au plafond et dans les murs. Les pièces risquent de se laisser aller. Et moi, j'ai la salle de bain, la buanderie et ma cour. Inaccessible, c'était interdit d'y aller. On attend les ingénieurs et les experts et on saura quoi à ce moment-là.
Des travaux de consolidation de la berge vont être entrepris.
C'est un mur qui relève des compétences de la région wallonne. Et donc, les experts sont actuellement ici pour déterminer la meilleure manière de réparer et d'intervenir sur le site.
Voilà donc pour les inspections qui se déroulent en ce moment du côté de Chêné. Cela dit, la situation n'est pas isolée. D'autres berges ont été fragilisées par endroits. Une berge a notamment cédé du côté de Ittre ces dernières heures. Alors comment expliquer cela? Benjamin De Waals, vous êtes chargé de cours adjoint en hydraulique à l'Université de Liège. Est-ce que c'est courant de tels dommages après des inondations comme celles que l'on a connues?
Alors oui, malheureusement, c'est un phénomène qui est assez courant, notamment dans des régions plus montagneuses, ça se voit régulièrement. Et cela peut s'expliquer par plusieurs phénomènes. Il y a notamment des phénomènes d'érosion. Et simplement, au plus la vitesse de l'écoulement est importante, ce qui est le cas en période de crue, au plus la rivière a tendance à éroder, donc à creuser à certains endroits. Et si cette rivière se met à creuser justement au pied d'un mur, eh bien le mur est déstabilisé. De même, les niveaux d'eau peuvent atteindre aussi des parties de berges qui d'habitude ne sont pas sous eau, d'habitude sont hors eau. Et alors, ces berges peuvent elles-mêmes subir des érosions éventuellement si elles sont constituées de matériaux meubles. Et la résistance de telles berges à l'érosion dépend en général de la couverture du sol, par exemple le type de végétation qui s'y trouve, et tout cela peut se calculer.
Est-ce qu'on a beaucoup d'endroits, en Belgique, en Wallonie en particulier, où il y a ce risque potentiel d'avoir comme ça des berges qui s'effritent, voire qui s'effondrent?
Alors il y a bien entendu beaucoup d'endroits où des berges sont exposées, mais le phénomène ne peut évidemment se produire que s'il y a une crue suffisamment extrême, de durée suffisante pour les mettre en, en péril.
Donc ce sont des conditions très particulières, comme les inondations qu'on a connues ici récemment. Est-ce qu'il y a des moyens de se prémunir contre cela, de protéger les berges notamment ?
Alors bien entendu, il y a un grand nombre de techniques possibles. La solution extrême constitue bien entendu à bétonner, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus heureux tant sur le plan urbanistique qu'environnemental. Et donc il y a d'autres techniques, comme par exemple le placement de gabions, le placement d'enrochements, de blocs de rochers, qui peuvent réellement renforcer la résistance qu'aura la berge contre l'érosion, tout en rencontrant même certaines autres préoccupations, comme des préoccupations environnementales. Il y a certaines de ces techniques qui peuvent même créer un environnement favorable au développement de la faune et de la flore.
Eh bien, merci Benjamin De Waal. Je rappelle que vous êtes chargé de cours adjoint en hydraulique à l'Université de Liège à propos donc de ces conséquences impressionnantes par endroits, conséquences de ces inondations d'il y a maintenant une dizaine de jours. La grogne devient de plus en plus vive, je vous le disais en titre, au sein du personnel de FEDASIL, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Le personnel est d'ailleurs en grève pour 24 heures, et ce matin, une cinquantaine d'agents ont manifesté à Bruxelles avant de se rendre au cabinet du secrétaire d'État de tutelle de FEDASIL, Philippe Courard. Les revendications des travailleurs concernent le manque de personnel et des garanties sur les contrats de travail. Certains contrats viennent en effet à échéance à la fin de l'année. Reportage ce matin au sein de la manifestation de Stéphane Crombin et Marie-Paul Jeunhomme.
Le nombre de demandeurs d'asile n'a cessé d'augmenter. Les conditions de travail sont devenues extrêmement difficiles dans les centres et toujours aucune garantie sur la prolongation de plusieurs contrats au-delà du 31 décembre. Eric Van Overbeek du centre de Jodogne.
Donc nous sommes toujours à 200 résidents sur normalement les 178, mais nous prévoyons une extension à 340. Et là, pour cette extension qui aura lieu début de l'année prochaine, nous n'avons encore aucune garantie sur le cadre de personnel qui nous sera alloué.
La situation est extrêmement difficile et pénible aussi au dispatching fédéral à Bruxelles. Yves Rosenbaum.
Il faut savoir que la crise dure pour nous depuis pratiquement 3 ans et qu'on fait un travail contre nature, à savoir qu'on informe tous les demandeurs d'asile pour qui on n'a pas de place. Donc ils vont devoir dormir dehors et se débrouiller par leurs propres moyens. Donc c'est vraiment très difficile, c'est une charge administrative énorme, mais c'est aussi une charge morale. Très difficile pour le service et il est vraiment temps que ça change, quoi. Il est vraiment temps que ça change.
Alors au quotidien, vous recevez combien de personnes ?
Ben écoutez, c'est variable, mais on peut donner une bonne moyenne de 150 personnes par jour. Ça peut parfois monter à 200 ou 250.
Très difficile aussi de renvoyer des gens à la rue.
Oui. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas.
Une délégation est reçue en ce moment même par le secrétaire d'État, Philippe Courard.
Reportage donc ce matin au sein de la manifestation de ces agents de FEDASIL. Et concernant le sort des demandeurs d'asile spécifiquement, on notera encore ces propos du Premier ministre Yves Le Terme ce matin dans la presse flamande. Le Premier ministre en affaires courantes y explique qu'il entend bien se montrer plus ferme désormais dans l'exécution de la politique d'expulsion des demandeurs d'asile déboutés chez nous. Selon le Premier ministre, la Belgique a depuis 15 ans l'image d'un pays permissif où tout est possible et où tôt ou tard, on pourra bénéficier d'une régularisation. Il faut en finir avec cette image, précise le Premier ministre, donc en affaires courantes. Et sur le plan politique, justement, le conciliateur royal Johan van den Hout doit, on le sait, formuler demain une proposition de compromis sur la loi de financement. En attendant toujours pas mal de réactions chez nous par rapport à l'émission diffusée hier soir par la VRT. On vous en a pas mal parlé sur notre antenne. Émission qui examinait le scénario du plan B, la possibilité d'une scission de notre pays avec l'indépendance dès lors de la Flandre. Ce matin, c'est Bart De Wever qui a réagi sur ce point en radio. C'était chez nos confrères de la VRT. Le président de la NVA rappelle que la séparation de la Belgique est bien l'objectif de son parti. Mais à long terme, dit-il, dans l'immédiat, il s'agit d'avancer pas à pas vers cet objectif. La réforme de l'État actuellement négociée, notamment autour de Johan van den Hout pour le moment, fait partie de ces pas. Actuellement, le seul plan B pour Bart De Wever, je vous propose de l'écouter, ce sont les élections.
Je pense que les élections sont en fait le seul plan B qui existe. Tous les autres scénarios me paraissent participer à une ambiance générale. La fin de la Belgique est une question très intéressante d'un point de vue académique, mais le seul vrai plan B, ce sont les élections. Je pense que la plupart des partis n'en veulent pas, mais les gardent dans un coin de leur tête.
La réaction donc de Bart De Wever. Notez que l'on reviendra dans notre envers des médias vers 13h20, donc sur la première, sur cette émission justement Panorama hier de la VRT à propos du plan B, et notamment sur la question de savoir savoir pourquoi cette émission a fait un tel événement médiatique. Cet événement donc qui examinait la possibilité d'une scission du pays. C'est une suite des multiples révélations sur les actes de pédophilie dans l'Église belge. Une commission parlementaire est, vous le savez, créée pour étudier ces cas, les besoins des victimes, les relations aussi entre la justice et l'Église. Eh bien, cette commission va élargir ses recherches à l'ensemble de la société dès lors que les abus sont commis dans le cadre d'une relation d'autorité. Et les premiers travaux de cette commission auront lieu cet après-midi en attendant des représentants d'associations, en entendant donc des représentants d'associations d'aide aux victimes. Sur le plan judiciaire, l'ex-échevin montois et ancien député socialiste Richard Biefno était ce matin devant le tribunal correctionnel de Mons. Inculpé en mai 2009 de détention et diffusion sur le net d'images à caractère pédopornographique, le prévenu reconnaît les faits, mais il sollicite la suspension du prononcé pour pouvoir, dit-il, continuer une thérapie. Le ministère public réclame 10 mois de prison avec sursis probatoire. C'est Guylaine Bonaventure qui a suivi pour nous l'audience de ce matin.
Plus de 1600 photos, 230 vidéos pédopornographiques étiquetées par le prévenu de top à superbe, c'est ce que les enquêteurs ont décrypté dans l'ordinateur personnel de Richard Biefno. Au nom de ses enfants aux vies saccagées, Maître Hirsch s'est constitué partie civile pour Child Focus.
Derrière l'image, il y a la réalité d'une vie, il y a la souffrance d'un enfant, il y a un enfant qui est véritablement violé, torturé. Celui qui regarde, qui, comme ils disent, ne fait que regarder, participe en fait au viol de cet enfant.
Devant le tribunal, Richard Biefno évoque sa descente aux enfers, sa dépression après sa rupture conjugale et des déboires politiques. Depuis son inculpation, il suit une thérapie, regrette ses dérapages et fait face aux conséquences. Maître Mayence, son avocat.
Accepter tout ça devant toutes les caméras, devant la presse, etc., je crois que c'était quelque chose d'important pour lui de pouvoir assumer. Il a pris la mesure de ce qui devait être fait. Malheureusement, il va en subir sur le plan professionnel et autres les conséquences pendant longtemps.
Richard Biefno sort de sa carrière politique par la petite porte. Le jugement est attendu le 20 décembre prochain.
Et sur le plan judiciaire toujours, le procès de Richard Fourneau est lui interrompu jusqu'au 13 décembre prochain. C'est la conséquence de la requête en récusation déposée vendredi dernier par les avocats de Richard Fourneau. Ceux-ci mettent en cause, vous le savez, l'impartialité de la juge Christine Julien. L'audience prévue ce matin aura du coup duré moins d'une minute. Mais Patrick Michal y était pour nous.
Étant donné la requête déposée par le prévenu Fourneau, c'est en ces termes que la juge Christine Julien a ouvert l'audience ce matin pour aussitôt la refermer une minute plus tard, le temps d'interroger le procureur du roi et d'entendre sa réponse qui fut très brève. La procédure est limpide, la requête introduite par les avocats suspend les débats. Christine Julien, la juge visée, a donc jusqu'à demain pour répondre par écrit. Dominique Remy, avocat de Richard Fourneau.
Donc elle doit dire « je me récuse » ou « je ne me récuse pas ». Si elle ne se récuse pas, le code de procédure, si vous voulez, prévoit que l'affaire est d'office portée devant la cour d'appel de Liège.
Pour l'avocat des Mancias, cette ultime pirouette de la défense est un procédé qui s'inscrit dans un procès dit de rupture. Jean Bourtembourg répond par l'ironie.
On voit ça pour Klaus Barbie, on peut le comprendre. On voit ça pour le terroriste Carlos, on peut le comprendre. Pour Richard Fourneau, c'est plus surprenant.
Tout indique que ce sera la cour d'appel de Liège qui aura le dernier mot, une question de jour, dit-on à Dinan. Si la suite de la procédure devait entraîner le départ de Christine Julien, tout serait alors à recommencer. Si la juge est confirmée, le procès reprendra son cours normal le 13 décembre.
C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit et qui va connaître sans doute elle aussi des développements judiciaires. Il s'agit du cas de Michel, cet homme qui a subi un harcèlement moral et des violences physiques, dont certaines ont d'ailleurs été filmées. Des violences physiques donc au sein de l'entreprise MacTac à Soigny. Une histoire très largement médiatisée mais qui pose la question plus générale du harcèlement au travail. Comment de telles situations peuvent-elles se produire au sein d'une entreprise? Il existe pourtant une loi en la matière et des mécanismes de protection. Anne-Françoise Mouns a voulu en savoir plus pour nous.
Tout d'abord, l'employeur est obligé d'intégrer la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement au travail dans sa politique de prévention. Il s'agit tout simplement d'une question de bien-être au travail. L'employeur doit donc tout faire pour éviter les comportements de harcèlement au sein de l'entreprise. L'employeur doit notamment désigner un conseiller en prévention. C'est une personne de confiance à qui le travailleur peut s'adresser et se confier. Une procédure en interne peut ensuite être lancée pour régler le problème, voire pour sanctionner sanctionner la personne mise en cause. Au sein d'une entreprise, la hiérarchie doit d'ailleurs informer le personnel que des recours sont possibles en cas de harcèlement et qu'une procédure existe. L'employeur doit aussi prendre des mesures adaptées lors de la reprise du travail d'une personne qui a été victime de harcèlement. Toute plainte de harcèlement doit de toute façon être traitée. Si malgré les appels à l'aide, l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires, l'inspection du contrôle du bien-être au travail peut être saisie avec l'accord du travailleur.
Et l'on notera qu'hier, une autre victime de harcèlement a témoigné justement de harcèlement au sein de cette même entreprise MacTac, située donc à Soigny. C'était sur le plateau de nos confrères d'RTL TV. En bref, encore chez nous, une grosse frayeur, mais heureusement, pas trop de mal ce matin à Bruxelles. Un tram a percuté un minibus de transport scolaire. Apparemment, c'est le bus qui a brûlé la priorité au tram. Le minibus s'est alors couché sur le flanc, mais heureusement, aucun enfant n'a été blessé grièvement. 9 d'entre eux ont tout de même été légèrement touchés. L'actualité à l'étranger poursuivre. L'Irlande n'est pas en faillite, assure aujourd'hui son ministre des Finances. Après sa demande d'aide à l'Union européenne et au Fonds monétaire international, l'Irlande pourrait disposer d'un montant pouvant aller jusqu'à 90 milliards d'euros. Un plan d'austérité va évidemment passer par là également. Il sera d'ailleurs présenté ce mercredi. 15 milliards d'euros d'économies seront nécessaires d'ici 2014 avec un objectif, ramener le déficit public à 3% du produit intérieur brut. Il est actuellement en Irlande de 32%. Et puis toujours, à propos de la situation irlandaise, on notera cette information qui nous parvient à l'instant. Les Verts, qui sont membres du gouvernement, appellent à des élections anticipées suite à cette décision justement d'appeler à l'aide européenne en raison de la situation et des conséquences de la crise financière. Je vous le disais en titre, la Cour pénale internationale de La Haye entame cet après-midi le procès marathon de Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo sera jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'accusation parle de viols massifs et massacres d'opposants au régime centrafricain perpétrés par sa milice entre 2002 et 2003. Mais au-delà de cette image de chef de guerre sanguinaire, Jean-Pierre Bemba, c'est aussi le candidat déçu des élections présidentielles de 2006 en RDC. Alors, quel est encore le poids de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui au Congo? C'est ce que vous avez voulu savoir, Mathieu Van Winkel.
Oui, Jean-Pierre Bemba a été arrêté en 2008 à Bruxelles suite à un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Il avait fui la République démocratique du Congo après sa défaite aux dernières élections en 2006. Il avait alors recueilli 20% des voix. Jean-Pierre Bemba était donc à l'époque une personnalité politique importante du pays. Écoutez, Chris Beyrout, il est le directeur de la plateforme Eurac, plateforme qui supervise une cinquantaine d'ONG actives en Afrique centrale.
Après les élections, il incarnait presque l'opposition contre Kabila. Le fait qu'il a été arrêté, le fait qu'il n'est plus sur le terrain, a décapité l'opposition. Et comme on va vers des nouvelles élections en 2011, peut-être 2012, son absence pèse bien sûr dans le contexte congolais.
Et cette absence de Jean-Pierre Bemba va donc jouer un rôle important dans les prochaines élections. Les nouveaux challengers du président actuel doivent encore se construire et se définir politiquement.
Je pense que le trou que Bemba laisse dans le contexte congolais ne peut jamais être un contexte pour ne pas le juger devant le tribunal. Jean-Pierre Bemba est devant le tribunal à cause de faits commis dans la République centrafricaine. En soi, c'est bien sûr très important que les gens qui sont accusés de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sera jugé. C'est extrêmement important.
Et c'est évidemment là le paradoxe créé par ce personnage, Arnaud, un besoin de démocratie souffrant de l'absence d'un chef de guerre controversé.
En très bref encore, on notera qu'en Allemagne, les autorités prennent visiblement les menaces d'attentats au sérieux. La coupole et la terrasse du Reichstag à Berlin ont été fermées au public ce lundi. Une décision passe en conséquence quand on sait que cette superbe coupole attire chaque année quelque 3 millions de visiteurs. Selon le journal Der Spiegel, le Reichstag, qui abrite la Chambre des députés, on le rappelle, serait la cible de terroristes qui veulent prendre des otages et faire un bain de sang avec des armes à feu. Voilà pour les révélations donc du Spiegel. Il est 13h19.